Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui de l'esprit opposé au martyr, ce que j'appelle l'anti-martyr. Lui aussi s'oppose directement à la vertu de foi, et vous allez voir comment. Tout d'abord, il faut que je vous dise ce qu'est le martyr d'une façon théologique. Je sais que je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vous en ai plutôt montré la beauté. Là, il faut que je vous explique quelle est son importance et sa place dans la vie chrétienne. Saint Thomas traite du martyr à propos de la vertu de force. La définition de la vertu de force, c'est celle par laquelle on ne craint pas de sacrifier les biens inférieurs aux biens supérieurs, et notamment le bien particulier au bien commun. On en donne un exemple tout à fait classique de la main qui s'expose pour sauver la tête, mais on a là une situation exceptionnelle, car habituellement, il n'est pas nécessaire d'exposer la main pour sauver la tête. Cependant, on a là vraiment un exemple de ce que doit être la vertu de force, à savoir qu'on est prêt à sacrifier quelque chose auquel on tient beaucoup, qui est important, mais on le sacrifie pour quelque chose qui est plus important. On pourrait prendre un autre exemple, le bois qu'on met dans le feu. Cette fois-ci, on n'a pas une situation exceptionnelle, car le bois est fait pour cela. C'est une situation ordinaire. Je vous parle du bois de chauffage, évidemment, pas du bois de charpente ni du bois de menuiserie. Refuser de brûler le bois serait un non-sens. Pourquoi je vous donne cet exemple? Sacrifier sa vie, est-il une situation extraordinaire, comme d'exposer la main pour sauver la tête, ou est-ce une situation ordinaire, comme de mettre du bois dans le feu? Il faut répondre en distinguant qu'exposer sa vie pour sauver la patrie est une situation extraordinaire, mais consumer sa vie pour l'édification de la patrie chrétienne, surtout donc de la chrétienté, est une situation ordinaire. La vie est faite pour cela, pour être consumée pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi, si la vertu de force se manifeste surtout quand il faut exposer sa vie, elle est une vertu générale qui s'exerce dans tous les actes de la vie, parce que dans tous les actes de la vie, il y a des choix à faire, des sacrifices, on va voir ce qu'est le sacrifice, des sacrifices à faire pour des choses supérieures. Or, vous savez bien, mes bien chers frères, que de tous les biens supérieurs, le premier, c'est la foi. La foi à conserver, mais aussi à rayonner. Voilà pourquoi le martyr se rattache bien plus à la foi qu'à la force. Ou plutôt, voilà qui nous montre que toute la force est essentiellement au service de la foi. Deuxième partie de ce sermon, le martyr et la croix. Le Christ en croix n'a pas donné sa vie par accident, dans une situation extraordinaire ou exceptionnelle. Il a consommé sa vie, je ne dis pas seulement qu'il l'a vécue. Sur la croix, il dit « consumatum est », tout est consommé. Il a offert, donné, consommé sa vie pour la gloire de son Père. C'est la consécration ou le sacrifice au sens propre. Je vous ai déjà fait un ou deux sermons sur ce sujet, ce qu'est le sacrifice. On a tendance à ne voir dans le sacrifice que ce qui est pénible. Pour beaucoup de gens, un sacrifice, c'est une chose pénible, difficile, qu'on fait quand même, parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Mais ce n'est pas ça, le sacrifice. Le sacrifice, c'est faire du sacré, c'est-à-dire consacrer. En ce sens-là, la mère de famille qui se consacre à l'éducation de ses enfants fait le sacrifice de sa vie pour ses enfants. Que ce soit pénible ou non, ce n'est pas cela qui compte. D'ailleurs, c'est peut-être pénible pour une employée ou pour une infirmière, que sais-je, qui doit la nuit s'occuper d'un enfant malade, mais ça ne l'est pas pour la mère de famille, parce que l'amour rend tout facile, même ce qui est difficile. Et puis l'infirmière, si elle y met tout son amour, aura la même facilité à faire ce que les gens du monde appelleront des sacrifices parce que c'est dur, et qu'elle, elle appellera une consécration, ce qui signifie la même chose, mais qui montre qu'on le fait de bon cœur. Saint Augustin nous dit, le vrai sacrifice, c'est toute œuvre faite pour nous unir à Dieu dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire rapportée à ce bien suprême dans lequel nous pouvons être véritablement heureux. C'est-à-dire, pour saint Augustin, le sacrifice, c'est une consécration à notre vrai bonheur que nous ne trouvons qu'en Dieu, et pour cela, nous accomplissons, nous consommons notre vie. Bien, quand on compare le martyre et la croix, on comprend immédiatement que le martyre est un sommet qui donne sa couleur, j'allais dire, son esprit à toute la vie chrétienne. Quand on étudie les béatitudes, c'est l'explication donnée par saint Augustin et par saint Thomas d'Aquin, on découvre que les trois premières béatitudes nous mettent en garde contre les plaisirs des sens. Le bonheur n'est pas là, il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans la violence, etc. Les deux suivantes nous rappellent que la béatitude n'est pas non plus dans la vie active, même si la vie active est une très belle chose. Il faut monter plus haut. Les deux dernières sur sept, les deux dernières béatitudes nous rappellent que l'activité la plus élevée de l'homme, c'est l'amour et la contemplation. Mais il y a une huitième béatitude pour nous montrer que les sept premières ne sont des vraies béatitudes que s'il y a le martyre. Bienheureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous calomniera, qu'on vous persécutera, qu'on vous mettra à mort. Aussi bien saint Augustin que saint Thomas d'Aquin disent que la huitième béatitude est le couronnement, la perfection, le sommet des sept premières. C'est-à-dire que les sept premières ne trouvent leur épanouissement que dans la huitième, qui est celle du martyre. Et les auteurs spirituels nous expliquent que si tous les chrétiens ne sont pas dans la situation de devoir subir la mort par fidélité à Dieu, ils se trouvent tous dans la situation de la huitième béatitude. Tant que le monde sera monde, nous serons en but à la persécution. Ne croyons pas qu'il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'Église où il n'y avait pas de persécution. Et même s'il n'y avait pas de persécution, notre corps devrait être consommé pour la gloire de Dieu. Vous avez des hérétiques au premier temps de l'Église, on les appelait les gnostiques, qui, sous prétexte de mépriser le corps et le monde sensible pour vivre une pure vie de l'esprit, affirmait l'inutilité du martyr. Vous voyez, moi je vis dans la contemplation de Dieu, dans l'amour et la contemplation de Dieu, je n'ai pas à m'occuper de ces choses bassement terrestres. Et donc pour eux, le martyr ne servait à rien. Et c'est une des raisons principales pour laquelle ils ont été mis au ban de la chrétienté. C'est-à-dire rejeter de la chrétienté. Parce qu'ils n'avaient pas compris que notre corps doit participer à l'hommage que nous rendons à Dieu, et qu'il peut le faire soit en servant Dieu dans les œuvres, soit en mourant pour lui, soit dans une situation intermédiaire, sans mourir, tout en souffrant pour lui. Avant de passer à la troisième partie du sermon, sur l'anti-martyr, je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas à nous de choisir le mode de notre martyr, le mode selon lequel nous allons consacrer notre vie à Dieu. Certains, par choix de Dieu, doivent mourir pour lui, d'autres, par choix de Dieu, doivent consommer leur vie pour lui. Je vous ai, la dernière fois, raconté plusieurs histoires de grands saints qui voulaient le martyr et n'ont pas été martyrisés. Le grand danger, quand on parle du martyr, c'est de se dire « Oh, cela, c'est exceptionnel, ce n'est pas pour moi ». On m'a dit il n'y a pas longtemps qu'un prédicateur a averti les retraitants qui étaient avec lui qu'il fallait qu'ils s'attendent au martyr. Eh bien, cela, c'est grave. Parce que cela suppose que la vie chrétienne pourrait échapper au martyr. Non, il faut dire, tout chrétien est un martyr de l'amour, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et si vous voulez vraiment être un martyr de l'amour, il faut accepter de donner votre vie si Dieu le veut. Et il faut préciser que le démon, aujourd'hui, connaissant la valeur du martyr, va tout faire pour éviter que nous ayons à donner notre vie. Il faut prêcher que notre Seigneur a dit dans l'Évangile 8 fois, « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Et il précise même souvent « Et qu'il donne sa vie. » Pour notre Seigneur, la vie ici-bas est un grain qui doit tomber en terre, mourir en apparence, pour porter du fruit dans la vie éternelle, ou plutôt le fruit de la vie éternelle. Et de même que notre Seigneur dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », tout chrétien vraiment conscient de l'amour de Dieu et désirant aimer Dieu par-dessus tout, doit normalement désirer le martyr. J'en arrive à la troisième partie du sermon sur l'anti-martyr. Qu'est-ce que l'anti-martyr ? C'est celui qui cherche à préserver des biens inférieurs en perdant l'essentiel. Je ne vous parlerai pas trop de la perte des biens matériels, de la perte de la santé, encore que il y eut bien des lâchetés durant l'affaire du Covid, devant le vaccin, qui ne s'inquiète pas aujourd'hui avec l'augmentation du coût de la vie, alors qu'on devrait se réjouir. Je sais, j'exagère, mais je terminerai en vous parlant de la folie de la croix. Si le bon Dieu choisit pour nous de faire de nous tous des franciscains privés de tout, dénués de tout, pourquoi devrions-nous nous en plaindre ? Nous devrions plutôt nous en réjouir. Vous me direz, ça n'est quand même pas facile, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Ah si, Dieu donne la grâce en même temps qu'il demande les efforts et les épreuves. Et surtout, si ce n'est pas facile, c'est parce que nous nous mettons dans la tête que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas y arriver, et c'est comme ça qu'on lâche. Je voudrais, dans cette troisième partie, surtout attirer votre attention sur le fait que l'anti-martyr chrétien, aujourd'hui, cherche à préserver des biens même spirituels en perdant l'essentiel. Car il peut y avoir des biens spirituels, il peut même y avoir des biens sacrés qu'il faut sacrifier pour des biens plus sacrés. Lorsque Marius et Marthe sacrifient leurs enfants avec eux, sacrifient leurs enfants dans le martyr, ils sacrifient un bien sacré pour un bien plus sacré, celui de l'union à Dieu dans le sacrifice et dans la foi. Or, il y a de nos jours, par exemple, un conflit entre l'autorité sacrée du pape, ou plutôt les détenteurs de l'autorité, et la fidélité à Dieu. Nous sommes face au pape dans la même situation que les martyrs face à l'empereur, et nous devons accepter la condamnation à mort spirituelle qui s'appelle l'excommunication. Or, la première chose que les supérieurs de la fraternité Saint-Pédis ont demandé au pape quand ils ont espéré pouvoir sortir de la situation inconfortable dans laquelle était la fraternité Saint-Pédis, la première chose qu'ils ont demandé, c'est la levée de l'excommunication. Comme si les martyrs chrétiens suppliaient le préfet de Rome de rapporter la condamnation à mort. Alors que, au lendemain des sacres, les mêmes supérieurs avaient déclaré leur fierté d'être excommuniés avec Mgr Lefebvre et d'être par là séparés des ennemis de Jésus-Christ. Vous avez, cela va peut-être vous surprendre, mais c'est pour ça que je vous fais le sermon, mes bien chers frères, vous avez aujourd'hui, très souvent, un conflit entre les sacrements et la foi. Et c'est parce qu'on ne veut pas l'admettre qu'on trahit, ou plutôt, c'est parce qu'on n'a pas l'esprit du martyr qu'on ne veut pas admettre le conflit entre les sacrements, dans de nombreuses circonstances aujourd'hui, et la foi. Il y a ce conflit du fait du danger pour la foi, par exemple le rite moderne de la messe, mais également, ce que nous rappelait Mgr Lefebvre, la fréquentation de prêtres et de fidèles ralliés à la Rome moderne, ou bien du fait de l'anti-témoignage à fréquenter certaines églises, même avec la messe de Saint-Pie V, la messe traditionnelle. Celui qui n'a pas un profond amour du martyr enraciné en lui se persuade facilement qu'il vaut mieux garder les sacrements, non pas au prix de perdre la foi, mais en refusant de voir que cela va lui faire perdre la foi, ou le rayonnement de la foi, ou la vigueur de la foi dans sa famille. Parce que, on pourrait dire qu'un père de famille qui meurt à la guerre ne peut plus s'occuper de ses enfants, tandis que celui qui arriverait à se soustraire à la guerre en trahissant, et à la mort donc, pourra s'occuper de ses enfants. Mais le premier, que va-t-il transmettre? Il va le transmettre à ses enfants, la supériorité, il va transmettre tout simplement l'esprit du martyr. Il va être un modèle, un témoin, un modèle pour ses enfants, dans le sens de consacrer la vie à ce qui, et même de la donner, à ce qui en vaut vraiment la peine. Le deuxième qui trahit, même si sa trahison est une lâcheté pas trop violente, il rentre chez lui, il s'occupe de ses enfants, et que leur transmet-il? Il leur transmet le sens et le goût des accommodements. C'est inévitable. Il y a aujourd'hui un certain confort de vie chrétienne, y compris chez les traditionalistes, mais la même chose chez les modernistes. Tous ceux qui vont à la messe pour aller à la messe et qui ne veulent pas voir qu'ils offensent Dieu en communion dans la main, c'est la même chose. Autres exemples. Le rayonnement de la foi est indissociable de la foi elle-même. S'il faut conserver les écoles pour les enfants, au prix de ne plus rayonner la foi, c'est aussi faux que de déserter pour rester avec sa famille. Je dis s'il faut conserver les écoles catholiques, au prix de ne plus rayonner la foi. Et c'est le grand danger aujourd'hui. On veut sauver l'école catholique et pour cela, on cède aux exigences du gouvernement qui demande de se laïciser, de prendre les programmes, etc. Vous me direz, il n'y a rien d'autre. Si, il y a le martyr. Je sais, je touche là un sujet sensible. Ceux qui veulent peuvent très bien m'en parler, m'écrire, me demander pourquoi je dis des choses pareilles. Nous sommes dans une telle situation d'urgence que je fais des sermons nécessairement qui dérangent et ceux qui le veulent comprendront pourquoi je dis cela. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, tant pis, me traiteront de fou. Il y aura également la persécution civile. La fidélité à la foi va entraîner la persécution civile. Le FBI américain vient de mettre sous surveillance les catholiques traditionalistes américains parce qu'ils sont supposés être suprémacistes et puis parce qu'ils sont contre l'avortement, contre le LGBT et tout cela, ce qui est vrai. Ça a fait beaucoup de bruit, des évêques s'en sont mêlés, le FBI a retiré sa volonté, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et ce sont les simples traditionalistes conservateurs, pas des traditionalistes extrêmes. Alors je termine par la conclusion. Je voulais faire court encore une fois, je n'y suis pas arrivé. Non, le prêtre en Hongrie, 4 ans prisonnier avec l'Eucharistie, n'était pas fou, ce que je publie sur le site. Oui, ils étaient fous, ses confrères, qui préférèrent cesser de dire la messe plutôt que d'avoir une aggravation de leurs conditions de détention, qui abandonnèrent leur bréviaire aux communistes, qui demandèrent un assouplissement au régime communiste, qui refusèrent même, il y en a un, il a refusé de faire de l'apostolat, soi-disant, dans l'intérêt des prisonniers. Des prisonniers qui n'ont pas la foi, des prisonniers qui ne sont pas en état de grâce. Ce prêtre préférait ne pas leur donner la vie chrétienne, surnaturelle, pour sauvegarder un petit avantage supposé, et même pas certain, dans la vie d'ici-bas. Non, il n'était pas fou, saint Ignace d'Antioche, qui supplie les chrétiens de Rome de ne pas mettre obstacle à son martyre. Non, il n'était pas fou, saint Jean Bosco, qui publia à peu près, j'ai compté à peu près, 48 biographies, dont 23 de martyrs. C'est-à-dire 13 jeunes dont 2 martyrs, 28 papes dont 19 martyrs, et 9 autres biographies dont 2 martyrs, et encore je n'ai pas pu tout vérifier du côté des martyrs. Saint Jean Bosco savait très bien qu'au XIXe siècle, le siècle de libéralisme, il fallait publier des vies de saints jeunes, des jeunes pour encourager la jeunesse, il fallait publier des vies de papes martyrs pour montrer ce qu'on doit chercher dans la papauté, et il fallait multiplier les vies de martyrs. Bref, non, il n'est pas fou, celui qui écoute notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui perd sa vie la sauvera, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.